Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Imagine Campus, l'école qui fait confiance aux nouvelles générations. Une fois par mois, nous vous invitons à la découverte de parcours, portraits et points de vue de personnalités inspirantes qui chacune, dans leur domaine, ont inversé la tendance en donnant du sens à ce qu'elles faisaient. Qu'est-ce que tu inverserais de ton parcours? Quel métier tu voulais faire ado? Qu'est-ce que tu aurais aimé trouver au cours de tes études? Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Nos invités de Sens Inverse nous répondent en toute simplicité pour vous montrer que tout est possible. Alors on vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Guillaume.
Salut Théo.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Très content de te recevoir. Alors Guillaume, tu es étudiant entrepreneur, fondateur d'ExaCup, c'est un championnat gratuit de foot, facile d'accès et surtout engagé pour l'écologie. On y reviendra bien évidemment pendant cet épisode. Tu es passé par l'université Bordeaux-Montaigne, puis l'EFJ, l'école française de journalisme à Lille, tout là-haut, pour être en ce moment en master entrepreneuriat à l'IAE de Bordeaux. Tu es un passionné de sport et de journalisme et donc tu as décidé d'entreprendre pour mener ces deux passions en même temps. Je vais te poser déjà la première question. Ce podcast s'appelle Sens Inverse. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'inverser la tendance?
Moi, j'ai 20 ans, donc si je ne l'inverse pas aujourd'hui, tu vois, quand est-ce que je vais le faire?
Ouais.
C'est sans être vulgaire, mais il faut des couilles quand même pour aller à sens inverse, c'est vrai.
Ouais.
Il faut accepter de regarder les gens, leur dire « bon, la situation, elle est comme ça, moi, je n'ai pas envie, j'ai envie de faire autrement ». Et donc, je change les choses. Et donc, finalement, être à sens inverse, c'est croire en ses convictions aussi. Et finalement, on va avoir l'occasion d'en parler, mais avec l'ExaCup, c'est ce que j'ai voulu faire.
Ouais.
Et en fait, plein d'autres, une fois que tu commences à montrer un chemin à sens inverse, tu te rends compte que finalement, il y a plein de gens qui pensent à sens inverse, qui veulent faire à sens inverse, et c'est comme ça que tu crées une dynamique finalement.
Ok. Et alors, tu dis déjà, effectivement, à 20 ans, le faire maintenant, c'est jeune. Pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce qui fait que toi, déjà, tu as l'impression, et tu vois, tu as employé plein de fois déjà le sens inverse, côté sens inverse, pourquoi ça arrive maintenant? Il y en a, ça arrive jamais, il y en a, ça arrive plus tard.
Alors moi, ça arrive à 15 ans.
Ouais,
déjà. À 15 ans, j'ai créé ma première asso, tu vois, de débat d'idées à l'époque. Ça n'a pas forcément hyper bien fonctionné, mais des jeunes venaient, en fait, on se disait, on ne connaît rien à la politique, on a juste envie d'en savoir plus, donc on va se mettre autour d'une table, on va débattre, on va échanger, on va être curieux. Et finalement, des jeunes sont venus, mais tu vois, c'était la jeunesse. Après, je voulais créer une sorte de plateforme pour réunir des bénévoles et des associations à Bordeaux, parce que les assos avaient besoin de jeunes, les jeunes voulaient s'investir. Donc, tu vois, j'ai essayé, alors j'ai beaucoup, beaucoup raté.
Ouais. T'as beaucoup appris.
C'est grâce à ça qu'à 18 ans, j'ai créé l'ExaCup, et là, ça a fonctionné. Tu vois, parce que je sortais de confinement et finalement j'avais juste envie de jouer au foot avec mes potes. Et en même temps, j'avais essayé de tenter des projets écologiques. Les jeunes sont sensibilisés, mais pour agir, c'est plus difficile. On passe un cap. Et en fait, je me suis dit, on va créer une compétition accessible à tous avec un point de vue écologique. Et c'est comme ça que l'ExaCup est né.
Ouais, carrément. On va revenir juste après. Moi, j'avais envie de comprendre un peu ton parcours aussi, parce que je l'ai dit dans l'intro, tu es passé de l'université à l'EFJ puis l'IAE. Qu'est-ce qui a guidé tes choix?
Alors, en fait, moi, j'ai toujours été fan de sport. Et au début, je me suis dit, je vais être journaliste sportif. C'était une bonne idée.
Ouais.
Et dès le début, je me suis dit, je vais intégrer une école de journalisme dès le bac. Bac plus zéro, j'ai tout raté toutes les écoles. Donc, j'ai fait une année de droit.
Okay.
Après, j'ai voulu retenter les écoles. J'ai tout raté. Donc, j'ai fait une deuxième année de droit.
Ah ouais.
Et après, j'ai retenté toutes les écoles. Et j'ai quasiment tout raté, sauf une, la première école de journalisme de France à Lille. Et donc, j'y suis allé.
Ouais.
En fait, il ne m'a pas fallu 2 mois pour comprendre que j'étais au mauvais endroit. Parce que c'était bien de raconter, c'était bien de poser des questions, mais moi ce que j'ai envie de faire c'était de créer, d'entreprendre, et donc quoi de mieux que l'ExaCup pour le faire? Ça m'a permis de me dire ça y est, maintenant j'ai juste envie de créer des choses, donc il faut se faire plaisir, faut accepter de se lancer dans le grand bain en fait.
Ouais. Et tu l'as vécu comment alors tout ça? Parce que là, l'idée aussi, on s'adresse aussi à des étudiantes et des étudiants, hein. Alors d'autres personnes évidemment, mais c'est un peu le cœur. Parfois on a peur de se dire de faire un choix et tu vois, on l'entend parfois dans les choix Parcoursup ou autre, de se dire c'est le choix de toute une vie, après c'est tracé pour toujours. Toi t'en es la preuve qu'en peu de temps t'as changé rapidement. Comment tu l'analyses avec le petit peu de recul que t'as là sur tous ces changements de choix, ces changements?
Honnêtement, c'est la passion.
Ouais.
Parce que si j'avais dû choisir à l'avance, tu vois, droit, journalisme, maintenant entrepreneuriat, enfin quand je donne entre guillemets mon CV, on a l'impression que ça a aucun sens. Et en fait, le seul sens qu'on peut donner, c'est la passion que j'avais depuis le départ, de juste vouloir faire ce que j'aime. Peut-être aussi le fait d'avoir raté beaucoup de projets quand j'étais petit, même des trucs un peu bidons. Quand j'avais 10 ans, j'étais en CM2, l'école d'à côté, tu vois, faisait des heures d'interclasse de foot et l'équipe qui gagnait pouvait jouer contre les profs, mais moi, c'était mon rêve, tu vois. Du coup, j'avais essayé de faire pareil, j'avais réussi à aller à la réunion des parents d'élèves, j'avais échangé avec le directeur. Bon, c'était pas fait, mais c'est des petits projets comme ça qui, en fait, quand t'as tellement raté, au bout d'un moment, t'as même plus la pression. Et okay. Du coup, quand j'ai créé mon propre projet, que j'ai créé ma propre voix, je me suis même pas dit est-ce que ça a marché ou pas. Ouais. Je pense que si je m'étais demandé est-ce que ça a marché ou est-ce que ça va pas fonctionner, je pense que j'y serais jamais allé. Tu vois, donc, tous ces discours, allez-y, croyez en vos rêves, c'est bien, mais en fait, ouais, juste faites-vous confiance. Moi, sans trop se poser de questions, j'ai pas trop gambergé. Je me suis pas pris pour quelqu'un d'autre, tu vois, juste essayer de monter mon projet. Et puis j'ai eu la chance aussi, ça a fonctionné.
Mm-hmm. Bah, la chance aussi, elle arrive, on la provoque.
Ouais, bien sûr.
Le jet de.
Mais en ratant, notamment. Ouais, en ratant.
Exactement. Et à chaque fois, justement, dans tes premiers échecs, tu t'étais pas dit sur le moment, en fait, non, mais j'arrête, je vais reprendre peut-être quelque chose, une voie plus classique. Non, toi, à chaque fois, tu tombes et tu te dis, bon, allez, je me relève et je vais faire autre chose.
Moi, j'ai un problème parce que tu sais, on disait ça à propos de Robespierre à l'époque. On disait, cet homme ira loin parce qu'il croit tout ce qu'il dit. Mm-hmm. Et ben, moi, je croyais un peu tout ce que je faisais, même quand ça marchait pas, tu vois. Et donc, finalement, ben, quand l'asso à politique, elle a pas trop marché, ben, je me suis dit, bon, ben, si la politique, elle marche pas trop, je vais faire de l'associatif. Quand l'associatif a pas trop fonctionné, ah, ben, je vais faire du sport. Mm-hmm. Puis je pense que si l'exécutif n'avait pas marché, j'aurais fait un autre projet, puis un autre, puis un autre.
Ouais.
C'est un peu ça qui est passionnant. Là, juste la chance que j'ai par rapport à l'époque, où je faisais des projets qui fonctionnaient pas trop, c'était qu'à l'époque j'étais tout seul à mener les projets, et aujourd'hui en fait on est plusieurs. J'ai recruté 2 alternants, on a 8 stagiaires, on a plus de 30 bénévoles, on a des milliers de joueurs aujourd'hui. En fait, c'est devenu un projet presque qui m'appartient plus,
ouais.
Tu vois, qui grandit un peu partout, et ça, c'est la chance par rapport à avant.
Trop cool. Et dans les différents structures, institutions, écoles par lesquelles tu es passé, est-ce qu'il y a des trucs qui, d'après toi, manquaient en fait dans les études, quelque chose, ouais, où tu te dis, ah, ça aurait été chouette d'avoir ça quand j'étudiais?
Ben, peut-être plus nous inciter à créer des choses, à entreprendre, ou simplement à découvrir, à créer.
Ouais.
Bon, ben, on arrive à l'université de Bordeaux, on est dans un amphi, il y a 1200 personnes. La première chose que te dit le prof, c'est regardez à gauche. Alors là, il y a tout l'amphi qui regarde à gauche. Regardez à droite, tu as tout l'amphi qui regarde à droite. Et bien l'an prochain, ils ne sont plus là. Une personne sur trois qui passe en deuxième année. Donc tu vois, déjà, ça te met la pression. Alors tout le monde bosse comme un fou. Alors ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables, ils abandonnent, ils n'ont plus confiance en eux. Finalement, il n'y a pas vraiment une grande part qui est laissée, si tu veux, au vrai projet, à la vraie créativité, à l'incitation, tu vois, à faire au-delà un petit peu de juste ce qu'on te demande.
Mmh.
Et par contre, cette année, tu vois, à l'IAE de Bordeaux, dans mon master entrepreneuriat, j'ai eu cette chance.
Mmh.
Parce qu'il y a un incubateur, parce qu'il y a des accompagnateurs de projet, parce qu'on m'a tout de suite encouragé, tu vois, à passer un cap avec l'ExaCup, à trouver un modèle économique, à trouver de plus en plus de partenaires. Donc je pense que s'il manque quelque chose aussi, mais c'est en train de venir quand même de plus en plus, et c'est bien, c'est un peu de bienveillance, et surtout dire aux jeunes, bon bah allez-y, bougez-vous, les cours c'est important, le reste aussi, mettez-vous un coup de pied au cul et vous allez voir que vous allez adorer à la fin.
Ouais, justement tu parles du reste à côté, parce que j'ai vu que tu avais été bénévole dans plusieurs structures et t'en as un petit peu parlé. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être bénévole?
En fait, plein de choses, pour soi et pour les autres.
Ouais.
Pour soi d'abord, parce que intérieurement, tu vas grandir, tu vas découvrir d'autres personnes, tu vas construire ton réseau aussi. Et puis, c'est tout bête, mais le soir, quand tu as passé ta journée dans une asso, tu dors bien. Tu vois, c'est particulier, hein, mais c'est quand même c'est un vrai travail sur soi aussi, de s'ouvrir aux autres. Et puis, je disais aussi vers les autres, parce que finalement, on parle aujourd'hui de sophrologie, on parle de prise sur soi, on parle de beaucoup de philosophie, de développement personnel. Bah, finalement, le fait de s'investir dans une association, on est totalement dans cette dynamique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on va dans une société qui est de plus en plus individualiste. Bon, bah, on va prendre aussi du temps pour les autres. Et c'est comme ça aussi qu'on finit. En fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont créé leur projet juste au départ en s'investissant pour les autres. Soit ils sont allés dans une asso, soit comme toi, ce que tu fais, ils vont dans des écoles. Et ben finalement, l'opportunité, elle vient de là.
Ouais.
L'opportunité, elle vient rarement, ça c'est un cliché. Le cliché de la grotte ou le cliché du garage, où tu vas avoir l'idée qui va tout changer quand t'es tout seul au fond de chez toi. Souvent, l'idée, elle vient quand même plus souvent en parlant aux autres, en donnant du temps aux autres. C'est en donnant aussi qu'on reçoit. Donc, c'est cette philosophie-là qui m'a poussé à m'investir et à rencontrer des gens formidables aussi.
Ouais, carrément. Et alors, je reviens sur cette envie d'entreprendre. Tu l'as dit, bon, t'as commencé déjà à 15 ans à lancer quelques projets. Est-ce que là, t'as eu des exemples? Est-ce que tu t'es inspiré d'autres personnes, ou est-ce que c'est vraiment t'as écouté ce qui se passait en toi pour y aller?
En fait, ma source d'inspiration number one, mais de très loin, c'est mon frère.
Okay.
Parce que, tu vois, on a 15 mois d'écart, donc ouais. c'est très peu.
Ouais.
On a toujours été en concurrence quand on était petit. pas toujours très saine, mais ça nous poussait vers le haut, tu vois. Donc, mine de rien, avec le recul, en fait, j'avais, tu vois, mon frère qui était toujours quand même devant, qui menait des projets en permanence. Il a réalisé un court-métrage, paf, 200 000 vues. Mmh. Il a créé un mouvement apolitique, paf, 10 villes et des milliers de bénévoles. Là, plus récemment, il a créé l'application Élise qui permettait pour l'élection présidentielle de savoir quel était le candidat adapté pour toi. 4 millions de téléchargements. Donc en fait, c'était hyper... c'était une source d'inspiration fabuleuse. Et aujourd'hui, en fait, je le vois, si tu veux, comme une étape. C'est-à-dire que dès que je pense avoir réalisé quelque chose, avoir réussi quelque chose, et que je pense, en fait, être arrivé en haut de la montagne, je m'aperçois que c'était qu'un tout petit rocher en le regardant, tu vois. Je dis, bon, allez, c'est reparti, on y reva. Et puis, je sais que quand je serai monté, il sera encore plus haut. Donc, en fait, il me pousse à aller toujours plus loin, toujours plus loin.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, ma source d'inspiration première, elle est dans la chambre d'à côté. Donc, c'est pas très compliqué, tu vois.
Et c'est pas fatigant, pour le coup, parce que de se dire, tu viens de passer quelque chose d'important, tu vois, un premier rocher, après, encore la montagne derrière. Est-ce que tu arrives quand même un peu à te poser, à valider ce que tu viens de faire ou non, t'enchaînes
et... Non, surtout pas. Okay. Surtout pas, parce que le jour où tu t'arrêtes et tu fais des trop gros points, c'est fini. Non, il faut aller toujours plus loin. Aussi parce que nous, notre projet ExaCup, finalement, il y a un potentiel incroyable et plus on sera nombreux, plus on sera utile.
Mm-hmm.
Donc non, il faut savoir apprécier aussi. Moi, j'apprécie la chance que j'ai, je te disais tout à l'heure, de travailler avec des jeunes passionnés.
Ouais.
Je l'ai pas toujours eu. De travailler aussi sur un projet que j'aime,
mmh.
où finalement je travaille presque pas, de pouvoir rencontrer des jeunes dans la rue qui me disent « Ah, mais je connais l'ExaCup, il n'y a rien qui me fait plus plaisir, tu vois, je joue, c'est quand le ramassage de déchets ?» Enfin, tu vois, c'est juste ouais. dingue. Bon, on savoure, mais on reste focus, on garde la tête froide,
mmh.
on se dit « Bah, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux, et puis demain, tout peut s'arrêter aussi.
Ouais. »
Il faut le savoir, il faut en avoir conscience, et plus on s'y prépare, entre guillemets, en se disant, bon, bah, c'est une éventualité, l'échec, c'est une éventualité, j'en ai déjà connu, j'en connaîtrai d'autres. Tu vois, c'est Edouard Baer qui disait, l'échec, j'en sors, j'en viens. Bon, bah, c'est comme ça, tu sais que ça peut faire partie du jeu, tu l'acceptes et puis tu continues.
Ouais. Et alors, justement, l'ExaCup, tu peux nous en dire un peu plus ? D'où vient l'idée ? Comment tu le mets en place au début ? Et puis après, nous faire l'histoire au fur et à mesure. Mais déjà, d'où vient l'idée ?
Bah, en fait, je sortais de confinement après pendant pleine période de Covid. Et. Comme je te disais, j'avais juste envie de retourner sur les terrains avec mes potes et de créer une compétition un peu accessible à tous. Puis l'idée, très rapidement, c'était de se dire, bon, bah, quitte à effectivement créer une compétition de football, autant que ce soit utile pour l'écologie, parce que c'est un sujet qui comptait pour moi,
mmh.
et que je ne savais même plus comment vraiment engager les jeunes autour de moi. Tu en es tous sensibilisés, mais pour passer de la sensibilisation à l'action, il y a un pas. Donc je crée la compétition en 2020, je t'avoue on commence nos premiers matchs, c'était encore le confinement, les policiers venaient, enfin bon c'était un peu n'importe quoi, mais finalement ça a pris,
ouais.
et je m'y attendais pas forcément, je te dis, je sortais de plusieurs échecs, je m'attendais pas forcément à grand chose, mais ça a pris, ça s'est développé, il y a eu 60 équipes à Bordeaux, après on s'est dit bah, pourquoi pas le faire dans d'autres villes parce qu'il y avait nos potes, donc on est allé à Lille, Toulouse et Paris. Pareil, ça a pris. Et là, cette année, on s'est ouvert à toute la France avec la sortie de notre application mobile. Et aujourd'hui, on est dans 20 villes en France avec plus de 12 000 jeunes.
Mmh.
On était à 2000 en novembre. Donc, tu vois, c'est une progression exponentielle. Et l'année prochaine, on veut, pourquoi pas, bah, s'adresser à d'autres sports,
ouais.
S'adresser à d'autres pays, pourquoi pas, et grandir ce qui existe déjà aujourd'hui, tout en n'oubliant pas la dimension écologique. Donc là, le 13 mai, un samedi, bah en fait, en simultané, on va faire des ramassages de mégots. L'objectif, c'est de ramasser un maximum de mégots. Ça s'appelle l'ExaClean Day. Et on bosse avec l'association The Sea Cleaner.
Mm-hmm.
Voilà. L'objectif, c'est voilà, de réunir tous nos jeunes. C'est le deal. Vous participez à la compétition. OK, bah, vous venez ramasser des déchets avec nous. On ramasse un maximum de mégots. Et à la fin, c'est un peu à quelle ville, entre guillemets, on a ramassé le plus. C'est un peu une petite compétition, yes. tu vois.
Vertueuse. On reste dans l'idée, quoi.
Bien sûr.
Vertueuse, effectivement. Et alors, donc justement, tu dis l'idée de départ, c'est faire une compétition donc de foot. Est-ce que là aussi, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, parce que c'est pas du, je crois que c'est pas 11 sur le terrain, hein, c'est ça.
C'est à 8. Petits... Ouais. Ouais.
Alors pourquoi là aussi, enfin, nous expliquer un peu plus concrètement comment fonctionne la compétition.
En fait, l'idée, c'était que vraiment des jeunes qui boivent une bière le vendredi ou qui arrivent dans une ville qui connaissent pas forcément grand monde, ils puissent avec 7 copains, tu vois, créer une équipe hyper facilement. Ils ont plus qu'à télécharger l'application, à créer leur team avec des noms un peu rigolos, Bayern de Monique, Bayern Leverkusen. Enfin bon, ils ont de l'imagination. Et juste avec l'application, en un instant, tu peux créer ton match. Ça, c'était ouais. l'idée. C'était vraiment rendre le plus accessible possible, que ce soit gratuit et aussi que ce soit entre guillemets du cool. le foot à 8, c'est plus cool que le foot à 11. C'est des plus petits terrains, il y a beaucoup de buts. Parfois, tu as des scores 25 à 3, des choses comme ça.
Ouais.
Voilà, c'était pour rendre le truc accessible à tous. Tu vois que tu as des gars un peu de tous horizons qui puissent participer. Puis on se disait tout simplement, plus il y a de participants, plus il y aura de ramasseurs de déchets.
Mmh. Et donc concrètement, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que si tu viens participer à la compétition, donc tu joues au foot, ça, voilà, on a l'idée. À quel moment tu as cette notion de ramassage de déchets qui entre en jeu? Est-ce que c'est avant, après, autour de l'événement? Enfin voilà, comment ça se passe?
Tu t'inscris sur l'application, tu crées ton équipe. Ouais. Et en fait, tu joues quand tu veux. La seule limite, c'est une seule fois par semaine maximum.
Mm-hmm.
Mais par exemple, il y a un week-end, vous avez des examens, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas obligé de jouer, vous ne perdez pas de points au classement. Et en fin de saison, effectivement, si tu veux te qualifier au play-off, ce qui est un peu l'objectif de tous les jeunes, parce qu'une place au play-off, si tu gagnes les play-offs, ensuite tu es invité à Paris pour jouer contre les vainqueurs de toutes les autres villes.
Yes.
Voilà, c'est un peu l'Hexa Cup, la finalité.
Ouais.
Mais pour participer au play-off, c'est simple, il faut venir participer au ramassage de déchets. Voilà, c'est le deal. Et donc là, ce sera le 13 mai pour l'Hexa Clean Day. Et après, pendant l'année, il y a d'autres initiatives écologiques qui sont prises, comme par exemple les maillots. Il y a plein d'équipes qui se font des maillots personnalisés avec leur logo, leur nom, soit avec leur argent, soit en ayant le soutien d'entreprises qui viennent les sponsoriser.
Mmh.
Et c'est notamment le cas du FC Electric que Imagine Campus a sponsorisé cette année à Bordeaux.
Yes.
Et du coup, ces maillots aujourd'hui sont 100% éco-responsables, 100% recyclés à partir de bouteilles en plastique récoltées dans la Méditerranée. Voilà, c'est une start-up qui s'appelle Nold, qui est à Nice, en France. Et en fait, ça change la donne parce que l'an dernier, c'était des maillots qui venaient de Chine, du Bangladesh. Et c'est tout con, mais je prenais un verre avec des potes. Ils m'ont dit, bon, ben, en fait, tu pollues presque plus que nous parce que tes équipes, elles prennent des maillots qui polluent. Donc, ouais, ça m'a un peu fait gamberger. Et quand j'ai vu effectivement la start-up Nold, bah, je me suis même pas posé la question.
Ouais.
Et finalement, c'est une super collaboration. Tu as des dizaines d'équipes qui prennent les maillots là-bas et c'est super.
Bon, bah, chouette. Et justement, j'imagine que, aussi bien là, tu parlais de certains partenaires, mais dans les partenaires que vous recherchez aussi, j'imagine que tu as un enjeu de trouver. Enfin, justement, est-ce que vous en avez d'autres et tu as un enjeu de trouver des personnes avec qui ça match aussi en termes de valeur?
Bah, la gratuité, ça a un coût.
Ouais.
Donc, comme c'est gratuit pour les jeunes, il faut effectivement, pour financer le tournoi national cet été, pour financer l'application mobile, pour financer notre développement, il faut que des gens mettent de l'argent. Et aujourd'hui, notre modèle économique, c'est le sponsoring. Mmh. Donc, on cherche des entreprises, effectivement, pour soutenir notre action. Il y a notamment les Girondins de Bordeaux qui nous soutiennent depuis 2 ans, qui est un club aujourd'hui de la ville. Il y a une association qui s'appelle Big Ensemble, dont ouais, le but, c'est de planter des arbres, qui a été fondée par un homme d'affaires bordelais qui nous soutient
Pascal
aussi.
Rigaud.
Exactement. Donc, notre objectif, c'est d'en trouver d'autres aujourd'hui. Mais par contre, à terme, effectivement, de faire évoluer notre modèle économique, parce que le sponsoring, mine de rien, c'est quand même précaire.
Mmh.
Et donc, on verra exactement comment on fait ça. Mais voilà, s'il n'y a pas un modèle économique pérenne, le projet ne peut pas l'être. Donc, c'est important, effectivement, qu'on sache où est-ce qu'on prend de l'argent pour que, justement, les jeunes n'aient pas à en débourser.
Ouais. Et alors, dans ce choix, tu parlais tout à l'heure de ramasser des mégots de cigarettes. Comment vous faites là aussi le choix des initiatives, de ce que vous allez faire? Parce qu'il y en a quand même une multitude là aussi. Enfin, tant mieux ou pas, je ne sais pas. Mais si on pouvait ne plus avoir de mégots, ce serait mieux. Mais comment vous choisissez? Est-ce que c'est toi qui dis, tiens, on va d'abord prendre ça? Comment ça fonctionne là aussi?
Pour à peu près toutes nos décisions, déjà on discute avec les jeunes pour ouais, voir ce qui les intéresse, pour voir ce qu'ils ont envie de faire. Et puis aussi avec notre partenaire écologique numéro 1, en fait avec qui on organise les actions, c'est The Sea Cleaner.
Okay.
Voilà, qui est une asso dans toute la France, qui a été créée par un skipper, et dont l'objectif en fait est de nettoyer les mers et les océans. Mais en fait, pour nettoyer les mers et les océans, ça commence sur Terre. Parce que des déchets qui sont dans nos rues, c'est des déchets qui finiront dans nos mers et dans nos océans. Donc, ça commence par là, ça commence sur nos trottoirs.
Mmh.
Donc, l'idée, c'était effectivement un ramassage dans chaque ville pour qu'en fait, pour chaque jeune, soit accessible et pas évidemment qu'on les fasse se déplacer, qu'on pollue avec des transports.
Ouais.
Et du coup, quelque chose de simple à organiser, d'accessible, en même temps où tu peux voir la matérialité de ce que tu as fait. Tu ramasses des déchets, bah, tu vois ce que tu as ramassé, tu peux peser ce que tu as ramassé. Et les mégots, c'était important à deux égards. Le premier, c'est parce qu'il y en a partout. En fait, on ne le voit pas forcément, mais quand tu commences à baisser la tête, on a déjà fait des ramassages de déchets à Bordeaux en dernier, auxquels j'ai participé, mais il y en a en fait mais dans tous les sens.
Mmh.
Et la deuxième chose, c'est parce que aussi, vis-à-vis du tabagisme, ça permet de montrer aux jeunes qu'en fait, voilà, tous ces mégots-là, ça a un impact hyper négatif,
ouais,
notamment vis-à-vis de la santé. Et on peut compter ce nombre de mégots, ils peuvent voir l'impact qu'ils ont eu. Donc finalement, c'est le meilleur deal qu'on a trouvé pour pouvoir organiser cette grande action. Et on espère en ramasser des dizaines de milliers.
Ouais. Et alors, le retour justement de ces jeunes qui participent, c'est quoi? Parce qu'au final, il y a plein de valeurs dans ce projet-là qui sont géniales. Et quel est le retour? Tu as de plus en plus d'utilisateurs, donc j'imagine que c'est apprécié. Mais c'est quoi leur retour justement? Parce qu'en fait, des compétitions, il y en a plein qui existent, ils pourraient aller en faire d'autres.
Alors, une compétition comme la nôtre, elle est assez unique. Déjà parce qu'elle est gratuite. Et ça, c'est à peu près la seule aujourd'hui en France.
Okay.
Sinon, tu as des compétitions avec ton école, avec ton club, où tu peux t'inscrire. Mais c'est toujours payant. Mm-hmm. Nous, déjà, c'est gratuit. Mm-hmm. C'est aussi une compétition en fait, où tu es maître de ton équipe, où tu es impliqué. C'est toi qui crée ton nom, ton logo. C'est toi qui organise tes propres matchs. C'est toi qui crée tes propres maillots. C'est toi qui dois batailler pour essayer de te qualifier au play-off. Tu es un peu maître de ton aventure aussi. Et ça, c'est un peu
entrepreneur de ta propre aventure, au final.
C'est des mini-entrepreneurs du foot,
ouais,
finalement. Tu vois, ils ont créé leur équipe et leur objectif, c'est pas d'avoir un chiffre d'affaires, mais c'est d'être au play-off. Ils doivent mettre tout en œuvre pour y parvenir. Mmh. Et après, sur la partie écologique, les retours qu'on a des jeunes, au début, ils sont parfois un peu surpris. Quand ils connaissent pas l'Hexacup, on leur dit c'est gratuit. La seule contrepartie, c'est de venir ramasser des déchets. C'est un peu original. Tu parlais d'être à sens inverse tout à l'heure.
Ouais.
C'est ça aussi, être à sens inverse. C'est de dire, ça, on l'a jamais fait. Tu participes, il faut venir ramasser des déchets. Comme si c'était une contrainte. Ça fait partie du jeu.
Mmh.
Parce que, effectivement, tu n'as peut-être pas beaucoup de jeunes qui seraient prêts à se lever à 9h du matin, un samedi, pour aller ramasser des mégots. Ça fait partie de la compétition, donc ils viennent. Finalement, une heure plus tard, ils sont ravis d'être venus. Quoi.
Ouais.
Ils sont fiers d'être venus.
Ouais.
Donc, être à sens inverse, c'est aussi se dire, il y a peut-être d'autres manières d'atteindre le résultat. Quand on parle à des gens et qu'on leur dit on va essayer de lutter contre le réchauffement climatique avec le football, au début ça peut les faire rire. Finalement, regarde, si à la fin de la saison on a réussi à ramasser des dizaines de milliers de cigarettes et de mégots grâce au football, ce sera mission réussie.
Oui, c'est vrai qu'on n'associe pas forcément le milieu du foot à quelque chose de très écologique, surtout ces derniers mois, dernières années. Donc effectivement, associer les deux, il y a un vrai enjeu derrière.
Totalement, oui.
Et j'ai l'impression que vous y arrivez plutôt très bien. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner pour entreprendre, pour lancer le projet? Est-ce que vous avez des mentors là aussi qui vous accompagnent et je dis vous d'ailleurs, mais parce que tu sais, tu parlais de bénévoles, mais t'es pas tout seul dans l'aventure.
Au début, j'ai créé ça tout seul et j'étais pas forcément accompagné. Donc tu vois, j'ai fait des erreurs aussi. Mais c'est ça qui crée un peu l'ADN du truc, c'est que c'est créé par des jeunes, c'est géré par des jeunes, c'est pour des jeunes. Donc tu vois, c'est aussi c'est le foot amateur, c'est le foot des copains, c'est un peu l'ADN de l'Hexacup et c'est ça aussi qui nous plaît. Après, avec le temps, effectivement, j'ai pu être davantage accompagné. Et aujourd'hui, le vice-président de l'association, il a 36 ans, il s'appelle Johan, c'est devenu un ami et il me permet justement de me poser les bonnes questions, c'est-à-dire comment tu fais pour garder une bonne ambiance dans l'équipe, comment tu fais pour mieux recruter, comment tu fais pour te développer sans trahir tu vois, ton ADN. Se développer, c'est important parce que plus on a de joueurs, plus on a de ramasseurs. Mais se développer n'importe comment, ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Ouais.
Il faut qu'on reste proche des jeunes, il faut qu'on garde notre sens, il faut qu'on garde notre identité. Quand tu as 18, 19 ans au début, c'est pas toujours très facile, tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis mon frère aussi, avec qui je discute beaucoup, on se prend au téléphone une fois par semaine. On commence à se dire, aujourd'hui, on essaie de discuter aussi un peu de nos vies. On commence à parler de travail et à la fin de l'appel. Ça va toi? Ouais, ça va. Super. À la semaine prochaine. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'on adore nos projets, on est passionné par ça et donc on s'y retrouve aussi, on vit des belles aventures entrepreneuriales.
Ouais, carrément. J'ai vu il y a pas très longtemps l'un de tes posts sur LinkedIn, tu disais les jeunes ne veulent plus bosser, les jeunes ne s'engagent plus, ils ont aucune ambition, les jeunes ne veulent plus aider. En tout cas, c'est ce que disent la plupart des gens. C'est quoi ta réaction à ça?
Ce que je disais juste après dans le post LinkedIn.
J'ai pas tout dit, hein, sinon.
À moi de compléter. C'était qu'au contraire, les jeunes, ils veulent plus bosser n'importe où et dans n'importe quelle boîte.
Ouais.
Ils veulent plus s'engager pour n'importe qui. Ils veulent plus, effectivement, s'investir dans n'importe quel projet. Ils veulent trouver du sens. Alors peut-être que pour certains, c'est naïf, c'est ringard. Oui, mais il faut s'adapter à ça. Et si aujourd'hui, il n'y a pas de sens, c'est dur de recruter. Je pense que les grandes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de politique RSE, ne prennent pas en compte le bien-être au travail, ce genre de choses, petit à petit, elles vont manquer d'emplois.
Ouais.
Et aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a effectivement un peu une crise du recrutement. Mais c'est ça aujourd'hui. Moi mon rêve, ce serait que l'Hexacup grandisse, qu'on puisse déjà avoir nos locaux se structurer, avoir un modèle économique. Mais à partir de là, c'est pouvoir faire en sorte que, encore plus qu'aujourd'hui, l'équipe qui travaille à l'Hexacup, ce soit vraiment une grande famille avec, avec des jeunes, des moins jeunes, mais que le matin, les salariés de l'Hexacup soient contents de venir bosser là-bas.
Ouais.
Si déjà j'ai réussi ça et que les joueurs sont contents d'aller jouer et d'aller ramasser des déchets, c'est mission accomplie.
C'est déjà pas mal. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais inverser aujourd'hui?
Ah, c'est pas une question facile. Faut que l'exacup grandisse et en fait qu'on continue d'inverser ce qu'on a déjà inversé depuis 2 ans, c'est-à-dire la façon dont on fait du football, le sens qu'on donne au football et au sport en général.
Ouais.
C'est-à-dire que plus on est dans des pays divers, plus on est dans des sports divers, plus les jeunes vont être impliqués dans des ramassages de déchets, plus les jeunes vont voir aussi que le football ne fait pas que polluer. Non, le football, c'est pas que du sport business. Non, le football, c'est pas que de la malpolitesse, des tensions, de la concurrence. C'est aussi une école de la vie. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, s'il y a un message que je vais faire passer, c'est celui-là. C'est le sport, une école de la vie. Quand j'étais petit, c'est ce que mon entraîneur de rugby disait, parce que moi, je crée un projet dans le foot, mais moi, j'ai fait du rugby quand j'étais petit. Et alors moi, quand on me disait le mot école, déjà, j'écoutais plus. Mais en fait, tu vois, on grandit, on devient un peu moins bête. Et 10 ans après, je me rends compte que c'est vrai sur tous les points. T'apprends déjà qu'il y a une autorité, une hiérarchie, t'as le coach, t'as les partenaires, t'as le capitaine. T'apprends que contrairement au film Disney que tu regardes, ça finit pas toujours bien. Parfois tu perds, faut accepter ses défaites. Tu comprends aussi qu'il y a une valeur cardinale, c'est le travail. Tu comprends ce genre de choses. Bon ben voilà, c'est le sport aujourd'hui. Mais dans une école de la vie, s'il n'y a pas l'écologie, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on fait venir des jeunes dans une école de la vie qui est le sport et on met pas l'écologie au centre de ça. L'écologie, elle doit être au centre de notre apprentissage. C'est vrai à l'école, mais c'est vrai aussi dans le sport. Et donc, le but, c'est de continuer à être à sens inverse sur cette partie-là. C'est que ce n'est pas le sport, finalement, juste pour le plaisir, mais c'est le sport aussi au service des causes importantes comme l'écologie.
Ouais, carrément. C'est quoi pour toi, du haut de tes 20 ans, la réussite? Qu'est-ce que réussir aujourd'hui?
Ça va paraître un peu bateau, mais c'est aussi la fierté déjà dans ceux que t'aimes, ceux qui t'aiment et ceux qui ont confiance en toi. Quand t'as recruté quelqu'un en stage et qu'il est fier d'être venu et qu'il repart un peu avec des étoiles dans les yeux, ben, y a pas de meilleure sensation.
Ouais.
Quand tu croises un jeune de l'Exacup et qu'il te dit merci parce qu'il ne connaissait personne dans la ville et que maintenant il s'est créé des potes avec l'équipe Exacup, ben ça c'est un peu de la réussite aussi. Pouvoir se dire que même à sa toute petite échelle, tu peux être utile par exemple avec l'écologie, ben ça aussi c'est de la réussite. En fait, c'est juste faire ce qui te semble bien et juste kiffer, mais que ça ait un sens. Tu vois, y a différents plaisirs dans la vie. Il y a le plaisir que tu vas avoir quand tu vas gagner, je sais pas, au poker, au loto, ce genre de choses. Ça ne vaudra jamais le plaisir que tu as en kiffant avec tes équipes. Mmh. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi, c'était hyper important de travailler en collectif. Moi, par exemple, tu vois, toi, tu es indépendant. Moi, honnêtement, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas parce que je kiffe trop arriver le matin, bosser avec la team. Tu vois, c'est un truc. En même temps, on est dans le sport.
Ouais.
Donc, même nous, l'Exacup, c'est un travail collectif.
Ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner d'abord à l'école, Imagine Campus, et après aux étudiantes et aux étudiants qui nous écoutent?
Honnêtement, si j'aurais un conseil à donner aujourd'hui, c'est essayer de bien savoir utiliser votre temps. Quand j'étais petit, mon père me racontait une histoire. C'était celle de son meilleur ami qui, il y a 30 ans, hein, il était dans une école de commerce. Pas une école de commerce incroyable, bonne école. Et il est devenu président de son BDE. Et dans son BDE, il s'est engagé pour une maladie des articulations. Et il se trouve que c'était la même maladie que la femme de M. Courtin Clarins, qui est le créateur de la célèbre marque de cosmétiques Clarins. Donc le courant est bien passé, ils sont bien entendus, il s'est fait embaucher à Clarins. Et aujourd'hui, c'est le PDG de Clarins Monde.
Okay.
C'est parti d'une simple rencontre. Et moi, quand j'étais petit, je disais à mon père, il a eu de la chance. Ah, effectivement, la chance, ça compte.
Il y a une part de chance.
Mais en fait, il a juste bien su utiliser son temps. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est celui-là. Quand vous avez une heure devant vous, vous oubliez Netflix, ouvrez un livre. Quand vous prenez un vélo, pas de musique, vous écoutez un podcast, le tien par exemple.
ou celui qu'on est en train d'enregistrer voilà. En ce moment même.
si vous êtes dans une salle d'attente ou à côté de quelqu'un dans le train, parlez-lui.
Ouais.
Elle viendra peut-être de là, la rencontre décisive. Donc, si un conseil à donner, c'est celui-là, savoir utiliser son temps. Aujourd'hui, je pense que la première unité de richesse, c'est pas l'euro, c'est le temps. Donc, quand on est étudiant, quelque part, on est riche. Il faut savoir l'utiliser.
Ouais. Et pour l'école?
Et pour l'école, ça vient de la part de quelqu'un qui a eu beaucoup de mal avec l'école, donc je ne sais pas si je suis mieux placé pour en parler. Mais là aussi, l'école, en fait, il faut être hyper pragmatique. Il faut en retirer ce qu'on peut en retirer. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas trop l'école, ok. Mais il faut aussi comprendre que ça compte. bah, si vous kiffez pas trop l'école, essayez juste d'utiliser l'école pour les relations que ça peut vous apporter, par exemple avec les camarades, avec les profs, allez parler avec les profs à la fin de l'heure, allez aux événements que la fac ou que votre école organise. Créez-vous votre réseau, prenez aussi ce qu'il y a à apprendre, et par contre, ayez le courage d'aller voir votre prof, vos parents, votre copine, pour lui dire bah, « moi, j'aime pas l'école, alors je m'en vais ». Voilà. Si on n'aime pas ça, faut pas forcer.
Ouais, ça marche. Je vais maintenant te donner des mots, et je vais te laisser réagir soit par un autre mot, soit par une phrase. C'est toi qui vois comme tu veux. T'es prêt ?
Super, allons-y.
Si je te dis sport.
Football.
Ah, t'aurais pu dire rugby, tiens, donc mais football. Étudiant.
Entrepreneur.
Entrepreneur.
Étudiant.
T'auras pas le droit de faire tout comme ça. Hein. Si je te dis écologie.
Sport.
Engagement.
Jeunesse.
Risque.
Entrepreneuriat.
Impact.
Écologie.
Bénévolat.
Jeunesse.
Environnement.
Sport.
Ah ouais.
Bah c'est le combat là.
Ok,
ouais. Ouais, c'est que le jour où notre combat sera réussi, c'est quand les gens le jour où notre combat sera réussi, c'est quand les gens n'arriveront plus à concevoir le sport s'il n'est pas écologique. Ce jour-là, c'est que, pas que nous, mais on aura aussi gagné notre combat.
Ok, je crois qu'on peut terminer là-dessus, c'est beau.
Merci pour ton temps.
Bah, merci beaucoup, merci à toi. On te retrouve, alors pour s'inscrire, comment ça fonctionne ?
Il suffit de télécharger notre app sur l'App Store et le Play Store, ExaCup, de créer son équipe, soit avec des amis, soit dans le groupe Mercato, pour rencontrer des jeunes qu'on ne connaît pas forcément.
Okay.
Essayer d'être meilleur sur le terrain, mais aussi dans le ramassage de déchets, pour se qualifier au play-off et venir à Paris rencontrer les autres vainqueurs de chaque ville et tenter de remporter l'ExaCup.
Trop chouette. Bravo et à très bientôt.
Merci beaucoup Théo.
Ciao. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Toute l'équipe d'Imagine Campus espère que cet épisode vous aura apporté des clés et de l'inspiration pour donner de l'impact à votre métier. Alors à très vite pour un nouvel épisode.